Suno Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique, assure la pleine forme de tous nos champions et championnes d'Afrique. Suivez Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Raphaël Constant.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous allons parler de l'infertilité. Lorsqu'aucune grossesse naturelle n'apparaît au bout d'un an, c'est à ce moment-là que les médecins évoquent l'infertilité au sein d'un couple. Un désir d'enfant qui se traduit par une attente plus longue que prévue, plus douloureuse aussi et qui, dans la plupart des cas, nécessite de faire appel à la procréation médicalement assistée. L'infertilité est un problème de santé publique. Aujourd'hui en France, environ un couple sur 8 consulte pour des difficultés à procréer. Un couple sur 10 suit un traitement pour remédier à son infertilité. Et les causes sont partagées puisque dans un tiers des cas, l'origine de l'infertilité est masculine, dans l'autre tiers féminine et le dernier tiers est lié au couple. Face à cette situation souvent éprouvante psychologiquement et parfois stigmatisante socialement, les couples cherchent des réponses, des solutions auprès de spécialistes. Maladies, malformations, génétiques, recul de l'âge moyen du premier enfant, endométriose, impact de l'environnement, quelles sont les causes de l'infertilité, à quels obstacles sont confrontés les couples, les médecins, comment en parler, trouver les mots justes, comment éviter que l'infertilité tourne à l'obsession, quelles prises en charge et traitements adaptés en fonction des régions du monde. Tour d'horizon avec nos invités. Santé de la reproduction, pour en parler avec nous aujourd'hui en studio, professeur Michael Greenberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service médecine de la reproduction et préservation de la fertilité de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Également avec nous en studio, docteur Nathalie Sermondade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin au sein du service de biologie de la reproduction de l'hôpital Tenon à Paris. Nous retrouverons tout à l'heure en direct du Cameroun le docteur Ernestine Gouet-Bell, gynécologue obstétricienne, directrice de la clinique médicale et du centre de PMA de la clinique Odyssée à Douala. Et en fin d'émission, la chronique sexualité du docteur Catherine Solano, médecin sexologue. L'infertilité, si vous avez des questions à nous poser ou un témoignage à apporter, notre page Facebook est ouverte et nous attendons tous vos appels au 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé sur RFI.
Pour commencer cette émission, professeur Michael Greenberg, quelle est la différence entre infertilité et stérilité ?
Alors, la stérilité, c'est un statut qui est définitif, en fait, contre lequel on ne peut pas remédier. Par exemple, une femme qui n'a pas d'utérus ne peut pas porter d'enfant, elle est stérile, on peut rien faire a priori pour ça. Pareil s'il n'y a pas d'ovaire, ou pareil s'il y a des testicules qui fonctionnent pas du tout. Donc ça, c'est la stérilité, c'est un statut qui est en fait irrémédiable. L'infertilité, c'est l'incapacité à pouvoir avoir un enfant, mais pas nécessairement parce qu'il y a un facteur de stérilité. C'est des choses qu'on peut essayer de contrecarrer et pour lesquelles on peut essayer d'intervenir.
Alors il faut le rappeler, l'infertilité concerne aussi bien l'homme que la femme.
Alors ça, c'est particulièrement important de le préciser. Les infertilités peuvent être d'origine masculine exclusive, d'origine féminine, et bien souvent aussi avec une composante qui provient de l'ensemble des deux partenaires du couple.
Docteur Nathalie Sermondade, comment on peut définir l'infertilité au sein d'un couple ?
Alors la définition, elle a déjà été décrite, donc c'est-à-dire l'incapacité à concevoir un bébé au bout de 12 mois de rapport sexuel sans contraception. C'est en général au bout de 12 mois qu'on propose de faire un premier bilan de fertilité. Là, c'est très important de faire un bilan des deux membres du couple en même temps. Ce bilan va comprendre en général des analyses du sperme pour le monsieur et puis un bilan au niveau ovarien, au niveau des trompes et de l'utérus de la femme.
Professeur Greenberg, est-ce qu'il est aujourd'hui possible de définir les causes majeures de l'infertilité ?
Alors oui, on a des grands groupes de causes au sein même de chaque entité. Donc par exemple pour la femme, on a des problèmes d'ovulation qui font que les ovaires ne fonctionnent pas de manière optimale. Soit ovulation parce qu'il y a déjà un vieillissement ovarien qui peut être prématuré. Donc des femmes qui sont presque en ménopause précoce, qui les empêchent d'ovuler. Du tout. Certaines ovulent de manière incorrecte, c'est souvent ce qu'on appelle le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ça, c'est le groupe d'infertilité d'origine ovarienne. On a aussi des infertilités d'origine utérine où c'est l'utérus qui est en cause, soit parce qu'il y a des fibromes, soit parce qu'il y a des polypes ou des malformations de l'utérus qui peuvent générer l'incapacité à pouvoir avoir un enfant. Et enfin, il y a les causes qu'on appelle tubaires, qui sont des problèmes de trompe, ce qui raccorde l'utérus aux ovaires. Et il peut y avoir des obstructions des trompes bouchées qui empêchent la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule. Ça, c'est pour les femmes. Et pour les hommes, on a, et c'est de plus en plus décrit, des altérations du spermogramme, des problèmes d'anomalie de compte ou de mobilité des spermatozoïdes qui peuvent être en rapport soit avec des obstacles sur les voies de production des spermatozoïdes, soit par problème de production directe par les testicules de ces spermatozoïdes.
Certaines IST également, infections sexuellement transmissibles, qui ne sont pas suffisamment traitées assez tôt, peuvent être la cause de certaines infertilités.
Alors, ces infections sexuellement transmissibles, en fait, elles sont dans les causes un peu que je vous ai données. Ça, c'est l'origine à proprement parler, mais elles vont générer souvent des obstacles sur les voies génitales, donc des trompes qui vont être bouchées chez la femme, ou des obstructions au niveau de ce qu'on appelle le tractus génital masculin, toutes les voies qui permettent l'excrétion des spermatozoïdes quand ils ont été produits dans les testicules. Comme c'est bouché dans la tuyauterie, on va dire, d'aval, ça ne peut pas sortir, et ça, c'est une conséquences directes des infections.
On comprend qu'il y a des causes donc réversibles et d'autres que l'on ne peut pas guérir. Est-ce que vous auriez des exemples ?
Alors, ce qu'aujourd'hui on sait très mal guérir, par exemple, c'est ces femmes dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont ménopausées un peu précocement. Ça, aujourd'hui, on ne sait pas remédier, on ne sait pas faire produire des ovules à une femme qui n'en produit plus. On ne sait pas non plus chez les hommes qui ne produisent pas du tout de spermatozoïdes, chez qui on va essayer même d'aller jusqu'à de la chirurgie pour les récupérer dans les testicules. De temps en temps, il n'y a pas du tout la base même qui permet la production de ces spermatozoïdes, la base cellulaire, c'est-à-dire la cellule toute primitive. Et dans ce cas-là, aujourd'hui, on ne sait pas remédier à ça, par exemple.
Docteur Sermondade, on a évoqué les causes. Est-ce qu'il y a des facteurs qui contribuent à l'infertilité ? Je pense à l'environnement ou la pollution.
Oui, tout à fait. Donc, effectivement, on constate depuis quelques années un certain parallélisme entre l'augmentation de l'infertilité et l'augmentation de l'exposition à des facteurs environnementaux néfastes, tels que des polluants atmosphériques ou des polluants pesticides, etc. Et également un parallélisme avec l'augmentation de l'obésité, du surpoids, de la consommation d'aliments non adaptés, etc. Et on s'intéresse beaucoup à ce sujet-là parce que effectivement, ça, même si ça n'explique pas en soi l'infertilité, ça peut être un des leviers sur lesquels on va pouvoir appuyer pour optimiser les chances d'obtenir une grossesse, soit naturellement, soit avec l'assistance médicale à la procréation.
Et un autre facteur serait l'âge. Est-ce que l'âge est vraiment déterminant ?
Alors l'âge, c'est vraiment un facteur clé, l'âge de la femme. Hein, c'est un facteur clé dans l'obtention d'une grossesse. On sait que l'optimum pour obtenir de fertilité, pardon, est compris entre 20 et 30 ans, que la fertilité va commencer à baisser doucement à partir de 30 ans, beaucoup plus à partir de 35 et encore plus à partir de 40, et qu'à partir de 45 ans, les chances de grossesse sont très très faibles, voire nulles. Donc effectivement, l'âge c'est important pour une grossesse naturelle, mais c'est aussi important en assistance médicale à la procréation parce que toutes nos techniques ne permettent pas de contourner cette baisse physiologique de la fertilité.
Le terme de parcours revient souvent dans les témoignages des couples en situation d'infertilité. Professeur Greenberg, quelles sont les étapes médicales, les examens pour diagnostiquer l'infertilité féminine ou masculine ?
Alors les examens initiaux à proposer, donc qui feront suite à la première consultation d'infertilité, qui est une consultation relativement longue, parce qu'il faut récupérer l'ensemble des éléments pour essayer de trouver une piste à cette cause et à l'impossibilité de pouvoir concevoir par ce couple. Ensuite, ça va déboucher sur la prescription d'examens complémentaires qui vont avoir pour objectif d'évaluer chez la femme l'utérus, les trompes et les ovaires. Ça se fait principalement par échographie, par un examen qui s'appelle l'hystérosalpingographie qui, lui, évalue les trompes. Donc ces examens sont à planifier sur certains moments précis du cycle et ça va permettre d'avoir une vision globale de la structure anatomique, si vous voulez, et du fonctionnement des ovaires, des trompes et de l'utérus. Si on trouve une cause qui peut expliquer l'infertilité, on pourra être à même éventuellement de tenter de la traiter. Mais il faut savoir que dans un nombre non négligeable de cas, on ne trouve pas de cause chez la femme parce que la cause est masculine. Et de temps en temps, même chez l'homme, on ne va rien trouver non plus. C'est ce qu'on appelle les infertilités idiopathiques. Ça correspond à peu près à 10% des cas. Et on ne trouve ni cause ni masculine ni féminine. Pour l'évaluation de l'homme, c'est principalement lié, ça va principalement se faire via une analyse de sperme qu'on appelle un spermogramme, qui va permettre de dénombrer le nombre de spermatozoïdes, de vérifier leur mobilité, leur forme, etc. Et si jamais il y a des altérations de ce spermogramme, on peut être amené à prescrire d'autres examens, des échographies, des examens de génétique, etc.
Tout de suite, on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé, nombreux à vouloir vous poser des questions.
Priorité Santé sur RFI.
Et tout de suite, on va retrouver Thierno qui nous appelle de Conakry en Guinée. Bonjour Thierno.
Bonjour Madame Raphaël.
Bonjour, on vous écoute. Quelle est votre question?
Oui, je me nomme Thierno et je suis marié il y a 3 mois. Je suis dans les trentaines et Madame est dans les vingtaines. Avant mon mariage, on a fait certains tests prénuptiaux, à savoir le groupe sanguin, le facteur de risque, la fertilité. Mais bon, à mon fort étonnement, jusqu'à présent, il n'y a pas eu de conception. Et là, les résultats de ces examens étaient favorables. Et je me demande réellement que faire maintenant, s'il faut aller rencontrer un gynécologue ou pas.
J'ai juste une question d'abord pour vous, Thierno. Quand vous parlez de tests de groupe sanguin, de quoi vous parlez?
Bon, le facteur existe, voir réellement est-ce qu'il y a la compatibilité entre elle et moi. Et là, on est du même groupe. Je suis de B+, elle est de B+. La fertilité aussi existe chez elle. C'est bien que chez moi aussi.
Donc votre question initiale était de savoir s'il fallait attendre ou aller voir un gynécologue tout de suite pour faire un enfant. Professeur Greenberg, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Thierno?
Alors, c'est ce que disait le docteur Sermonda tout à l'heure. Aujourd'hui, 3 mois sans arriver à concevoir, c'est pas encore un délai qui est très important. Une chose quand même sur cette histoire de groupe sanguin, ça n'a aucun rapport avec la fertilité. Il n'y a pas de compatibilité au niveau du groupe sanguin qui va permettre de dire ce couple-là peut avoir être fertile ou pas fertile parce qu'ils ont tel ou tel groupe sanguin. Donc ça sert strictement à rien. Par ailleurs, Thierno a dit qu'on avait évalué la fertilité de sa femme. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas de marqueur de la fertilité. Donc ni de lui, parce que ça n'a pas été fait chez lui a priori, ça a été fait chez sa femme. Et avant, et je ne sais pas pourquoi, soit on fait chez les deux, soit on ne fait pas du tout. Mais dans tous les cas, on n'évalue jamais vraiment la fertilité. On ne sait pas évaluer la fertilité. On peut s'assurer que tout fonctionne à peu près bien, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a 10% des couples chez qui on ne trouve rien. Donc ça veut dire que tout est normal. Et pour autant, il n'y arrive pas. En tout cas, dans son cas, il n'y a pas de raison pour le moment de s'exciter à aller voir tel ou tel médecin. Il faut continuer à se donner un tout petit peu de temps, enfin, sauf si sa femme je suppose qu'elle est à peu près du même âge que lui, sauf si sa femme avait 40 ans ou plus, mais je ne pense pas.
Alors, la vingtaine. Merci. Oui, bien sûr.
Oui. Donc un couple sans difficulté particulière pour concevoir a environ 25% de chance de concevoir chaque mois. Donc ça veut dire qu'en moyenne, un couple va mettre entre 4 et 6 mois pour concevoir. Donc effectivement, 3 mois, c'est assez court. Ça leur paraît probablement long, mais c'est assez court. Et ensuite, on peut juste encourager à continuer à avoir des rapports réguliers. Donc par rapport régulier, nous, ce qu'on entend par ce terme-là, c'est entre 2 et 3 par semaine, pour continuer à exposer le couple pour l'obtention d'une grossesse.
Merci Thierno pour votre question. J'espère que vous avez trouvé des réponses. On vous souhaite en tout cas une belle journée en Guinée. Et tout de suite, on retrouve Senabou qui est à Bamako au Mali. Bonjour Senabou.
Bonjour Raphaël.
Bonjour, on vous écoute.
Oui, moi j'ai une question un peu particulière.
Oui.
Après avoir découvert chez moi une infertilité, on m'a soumis à des traitements pendant plus d'une dizaine d'années. Je voudrais savoir si ces traitements sont à la base de mon obésité aujourd'hui. Depuis que j'ai commencé ces traitements, j'ai commencé à grossir comme pas possible.
Alors, Senabou, de quel traitement est-ce que vous parlez exactement?
On m'a donné des hormones. On m'a donné des hormones en me disant que mon infertilité est due au fait que mon ovaire n'avait pas le centimètre souhaité au moment de l'ovulation. Je voudrais savoir si c'est le traitement qui est à la base de mon obésité aujourd'hui.
Et à partir du moment où vous avez pris ce traitement, donc pendant plus de 10 ans, vous dites, est-ce que finalement vous avez réussi à avoir un enfant, Senabou?
Non. Après de 17 ans, j'ai même abandonné le traitement parce que je continuais à grossir. Et je ne supportais pas ça, le surpoids.
Donc aujourd'hui, vous avez arrêté votre traitement hormonal?
Oui, complètement.
Merci pour votre question, docteur Greenberg. Professeur Greenberg, est-ce que vous voulez répondre à Senabou?
Je suis désolé pour elle qu'elle ait dû à subir tout ça et malheureusement sans succès. C'est vrai que les traitements hormonaux peuvent, chez certaines femmes, on ne sait pas exactement cibler qui, mais être à l'origine d'une prise de poids. Alors en général, la prise de poids est modérée, mais chez certaines patientes, il peut y avoir des prises de 10-15 kilos. Ça peut arriver sur des parcours longs quand on est traité par des hormones pendant une certaine durée.
Est-ce que déjà, on ne pourrait pas s'étonner de la longueur du traitement sur plus d'une dizaine d'années?
Si, plus de 10 ans ou 17 ans de traitement hormonal sans succès, il y a un moment, de toute façon, il faut savoir dire stop, et c'est pas forcément la patiente de dire stop, c'est aussi le rôle du médecin d'être capable de dire, bon ben là on n'y arrive pas, il faut essayer de passer à autre chose si autre chose est proposable. Après, juste pour revenir sur les histoires de poids, elle est multifactorielle, en général cette prise de poids, elle peut être liée pour part au traitement. Mais on sait aussi, notamment dans ces échecs répétés, qu'à un moment, un certain nombre de patientes vont pouvoir compenser de manière différente leur tristesse de ces échecs. Et il y a une prise alimentaire qui est souvent pas optimale aussi à ce moment-là, soit excessive, soit avec des apports alimentaires qui sont pas adéquats, qui entraînent une prise de poids associée au traitement.
Merci beaucoup Senabou pour votre question et on vous souhaite évidemment une belle journée à Bamako. Tout de suite, on retrouve Dadier à Kinshasa en RDC. Bonjour Dadier.
Bonjour Madame Raphaël.
Bonjour, on vous écoute. Alors pas trop loin des klaxons si c'est possible. Vous êtes en voiture?
Oui, je suis dans un taxi.
On vous écoute, quelle est votre question?
En fait, je disais ceci. Je me suis marié au mois de septembre 2018. Et tout de suite, Madame est tombée enceinte. Malheureusement, deux mois après, elle a fait une fausse couche. Nous, on avait estimé que c'était au fait que, parce qu'on s'était déménagé, et on avait pensé que c'était dû à un traumatisme. Et depuis ce temps-là, rien de grave n'est arrivé. Dernièrement, il est allé voir un médecin, un gynécologue. On a fait l'échographie. Malheureusement, heureusement plutôt, aucune anomalie n'avait été décelée. Et après, le médecin a prescrit juste un produit à base de plantes venant de l'Inde pour régulariser le cycle menstruel. C'est ce qu'il a essayé de prendre. Et quand elle a vu ses règles, c'était le samedi passé. Et le lundi, le médecin l'a appelé pour un rendez-vous. Quand elle est arrivée chez le médecin a proposé qu'elle fasse l'hydrotubation. En fait, c'est ça que je n'ai pas compris, parce qu'il fallait soit le médecin constate qu'il y a soit le bouchage des trompes. Mais ce n'est pas le cas. Le médecin n'a pas fait un examen dans ce sens-là. Mais comment directement il peut proposer cette technique? C'est un peu ça ce que je pensais. Je voulais entendre votre avis.
Tout d'abord, Dadier, vous parlez d'un traitement à base de plantes. Vous êtes allé voir un tradipraticien ou un gynécologue?
Non, un médecin. Un médecin.
Docteur Sermondade, qu'est-ce que l'on peut répondre à Dadier sur son interrogation?
Alors déjà, en ce qui concerne la fausse couche, paradoxalement, même si c'est très douloureux pour le couple, évidemment, on peut considérer que c'est déjà bon signe d'avoir obtenu une grossesse dans un délai assez court, hein, puisque ça signifie au minimum que tout fonctionne correctement pour obtenir au moins une grossesse. Après, je suis pas certaine d'avoir compris ce que c'était que l'hydrotubation qui était proposée, vraisemblablement un examen des trompes au début du cycle. Moi, j'ai le sentiment, si je calcule bien, que ça fait 6 mois maintenant qu'ils essaient de concevoir depuis la première grossesse, ce qui me paraît peut-être encore un petit peu court pour lancer des explorations plus profondes.
Dadier, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Bon, j'ai pas bien compris.
Alors, si je comprends bien, la fausse couche, elle a eu lieu au mois de décembre, c'est bien ça ?
Au mois de novembre, 2 mois après.
Au mois de novembre, d'accord, très bien. Et donc depuis, il n'y a pas de grossesse, donc ça fait un peu plus de 6 mois maintenant. Je pense qu'on peut se permettre de se laisser encore quelques temps, surtout qu'il y a déjà eu cette grossesse qui permet quand même d'être rassurant sur la majorité des éléments qui empêchent d'habitude d'avoir une grossesse. Et notamment aussi parce que les échographies n'ont montré aucune anomalie, donc explorer les trompes à ce stade-là, ça me paraît un petit peu trop tôt.
Ok, c'est ça que j'ai pensé aussi.
Merci beaucoup pour votre question, Dadier, et bonne journée à Kinshasa. Tout de suite, on retrouve Abdou à Douala, au Cameroun. Bonjour Abdou.
Bonjour Raphaël.
On vous écoute.
Ah ok. Bonjour au docteur Chizato. Je suis Abdou, j'appelle depuis le Cameroun. En principe, je suis marié avec ma femme il y a de cela 19 ans. Parce que nous sommes mariés en 2003. Et après 10 ans de mariage, en fait, au bout de 2 ans, au bout d'un an, on ne parvenait pas à concevoir. Elle ne parvenait pas à concevoir et on a commencé à... C'était pas vraiment très inquiétant, on était encore tellement jeune à l'époque. Et je crois qu'au bout de 2 ans, l'inquiétude s'est installée et la famille aussi s'est emmêlée. On a commencé d'abord par les praticiens, les marabouts, bon, après, et on a fait les hôpitaux, les cliniques, et au bout de 11 ans, on a rencontré un médecin qui, après consultation et des examens de ma femme et de moi-même, il est arrivé à la conclusion que la dame de madame ne pouvait pas concevoir, c'était impossible scientifiquement. Et parce que les trompes, elle avait l'autre trompe bouchée et l'autre trompe était tellement courte, elle avait des fibromes et des myomes aussi en même temps. C'est ce qu'il a donné comme explication. Et bon, on n'a pas, sincèrement, on était tellement engagés, on n'a pas baissé les bras. On a continué à suivre aussi, on est allé dans une autre clinique, puis dans 2 ou 3 cliniques. On a prescrit le traitement. Bon, on a aussi manqué d'aller chez les praticiens. Et au bout de 3 ans, en 2015, elle a finalement, c'est pas un matin, elle me dit qu'elle ne se sentait pas bien, après consultation, elle a vu qu'elle était enceinte. Et au bout de 2 mois et demi, elle a fait une fausse couche. Pour moi, c'était un coup dur et vraiment avalé. Et elle a encore, bon, elle n'a vraiment pas suivi de traitement depuis 7 ans, depuis qu'elle avait fait sa fausse couche en 2015, en 2014. 2014, parce que c'est en 2015 qu'elle constate encore qu'elle était enceinte. Là, elle a été suivie par un de très bons spécialistes et elle a accouché sans problème. Et on a dit qu'on ne pouvait pas sortir les fibromes en même temps, parce qu'elle avait dû en accoucher par césarien. Et après un an, elle a encore suivi une opération. Bon, là, on est presque déjà 2 ans, presque plus rien du tout, pas l'ombre d'une grossesse. Et la question que je voudrais poser, docteur, c'est de savoir comment est-ce possible et comment elle est tombée enceinte après que le docteur ait diagnostiqué que c'était quasiment impossible. Et comment et pourquoi on ne parvient plus à avoir, elle ne parvient plus à concevoir.
Merci beaucoup Abdou pour votre témoignage et votre question. Professeur Greenberg, je me retourne vers vous. Comment expliquer que Abdou ait pu avoir un enfant avec sa femme après une fausse couche, une opération et un bilan d'infertilité ?
Bah, c'est toute la part qu'on ne sait aujourd'hui pas explorer. Quand je vous disais qu'on n'a pas de marqueur réel de la fertilité, c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire qu'on peut avoir des obstacles anatomiques, une entrave à la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, ou éventuellement des problématiques pour que l'embryon, quand il est constitué, s'accroche et se développe, à cause des fibromes par exemple. Mais il lui restait une trompe qui avait l'air de fonctionner. Une trompe bouchée n'exclut pas le fait qu'il y en ait donc une fonctionnelle et que ça puisse aller. Et les fibromes, c'est pareil, c'est pas la loi du tout ou rien. Et même si au bout d'un moment, quand on est en échec de traitement, que ça fait un certain temps qu'on essaye, je crois que le médecin, c'est très compliqué pour le médecin de dire vous n'y arriverez jamais. Et c'est sûrement la pire des erreurs à faire. Alors, faut expliquer que les chances peuvent être très peu probables, et elles le sont, puisque quand même c'est un couple qui a essayé d'être enceinte, d'obtenir une grossesse pendant très longtemps, et vous voyez que finalement, pendant ces années, il y a eu finalement que deux grossesses. Donc c'est un couple qui s'est exposé pendant de plusieurs manières, naturellement, peut-être avec des traitements médicaux, et que ça n'a malheureusement pas fonctionné. Ça peut arriver. Et on a aussi des gens qui viennent après un parcours très long d'AMP, d'assistance à la procréation, qui ne marche pas. Et puis d'un coup, ils arrivent, ça, comme si il y avait un espèce de déblocage ou je ne sais quoi qui fait que ça se met à fonctionner. On est incapable aujourd'hui d'expliquer le pourquoi du comment. Le fait est qu'en tout cas, les fibromes peuvent expliquer sûrement en partie les fausses couches, par exemple, ou la fausse couche qu'il y a pu y avoir. C'est pas certain, ça dépend où sont localisés les fibromes, mais ça peut être un facteur de risque en tout cas.
Merci à tous pour vos appels et vos messages qu'on n'a pas pu tous prendre. Je suis désolée, mais merci en tout cas pour vos témoignages. On poursuit donc cet échange avec vous, docteur Nathalie Sarmondade et professeur Michael Greenberg. L'infertilité, on l'entend, est également entourée d'un certain nombre d'idées fausses. Qu'est-ce que vous consultez, qu'est-ce que vous constatez en consultation ?
Alors, il y a énormément de choses que les gens pensent de manière erronée. La première, c'est le fait qu'il faille absolument cibler les rapports sexuels. Je crois que c'est ce qu'a dit tout à l'heure le docteur Sermondade. Le meilleur moyen d'être certain qu'on s'expose correctement à la grossesse, c'est d'avoir des rapports vraiment réguliers, tous les 2-3 jours, ce qui est le minimum pour être certain de cibler à coup sûr la période où on ovule. La femme ovule pas nécessairement un jour fixe, prévisible à l'avance. Très souvent, la femme ovule un petit peu plus tôt que ce qu'elle pense. Et de la même manière, les spermatozoïdes sont capables de vivre 3 jours dans les voies génitales. Donc, il peut y avoir une exposition, même sans avoir eu de rapport sexuel le jour J. Ça peut être des spermatozoïdes du rapport qui a eu lieu 2 ou 3 jours avant qui peuvent permettre la fécondation. Donc ça, c'est une grande idée. L'autre grande idée, on en a eu un exemple sur la première question, le groupe sanguin. Les problèmes de compatibilité. Aujourd'hui, on pense que ça n'existe pas, ces problèmes de compatibilité. En tout cas, il n'y a pas de lien avec les groupes sanguins, ça c'est une certitude. Et puis après, il y a toutes les... il y a l'idée fausse quand même qui se rapproche de la médecine, et notamment l'idée que la médecine va pouvoir forcément traiter, et notamment, c'est ce que disait le docteur Sermondade tout à l'heure, et je voudrais insister là-dessus, quand il y a des problématiques d'âge et de vieillissement ovarien, la médecine ne sait pas pallier à ce problème. Et on ne sait pas améliorer la qualité des ovules d'une femme, par exemple. Donc s'ils ne sont pas bons, en particulier à cause de l'âge, ou au bout d'un certain nombre de traitements, on s'aperçoit qu'il y a un problème de qualité, la médecine ne sait pas remédier à ça. Et on ne peut pas... On peut espérer et avoir beaucoup de croyances dans la médecine, et c'est important, nous-mêmes on y croit beaucoup, mais il y a quand même des limites encore aujourd'hui qu'on est obligé de reconnaître et qui malheureusement sont un fait pour beaucoup de couples.
Ces examens vont donc permettre de définir la thérapie la mieux adaptée à chaque couple. C'est là que le travail de biologiste entre en jeu. Docteur Nathalie Sarmondade, comment ça se passe? Quels sont les recours?
Alors, l'assistance médicale à la procréation, c'est l'ensemble des techniques qu'on va pouvoir utiliser pour aider un couple à concevoir un enfant, et où effectivement le biologiste va intervenir parce qu'il va manipuler les spermatozoïdes et ou les ovocytes et ou les embryons. Donc, l'assistance médicale à la procréation, il y a 2 grandes techniques. La première, c'est ce qu'on appelle l'insémination intra-utérine de spermatozoïdes. Le principe, ça va être d'optimiser les chances de rencontre entre le spermatozoïde et les ovocytes. Donc, la femme va avoir une stimulation de l'ovulation assez douce pour essayer d'obtenir 2 ovocytes plutôt que 1 pour augmenter les chances de grossesse. On va monitorer son ovulation et le jour de l'ovulation, nous, biologistes, on va préparer les spermatozoïdes du conjoint pour les déposer ensuite dans l'utérus au moment de l'ovulation. Et les spermatozoïdes vont aller rencontrer naturellement les ovocytes dans les trompes. C'est une technique qui permet à peu près 10 à 15% de chances de réussite par cycle. Donc ça, c'est la première technique d'AMP dont on dispose. Et la deuxième technique, c'est la fécondation in vitro, qu'on appelle aussi la FIV. C'est un autre principe, c'est un principe un peu différent, puisque cette fois-ci, la rencontre n'a pas lieu dans le corps de la femme, elle va avoir lieu au laboratoire, et donc c'est là où le biologiste a tout son rôle. Et après une étape de stimulation de l'ovulation, beaucoup plus forte cette fois-ci, puisque l'objectif c'est d'avoir pas mal d'ovocytes, le gynécologue va pouvoir faire une ponction par les voies naturelles pour récupérer les ovocytes au niveau des ovaires. Et la rencontre entre les ovocytes et les spermatozoïdes auront lieu au laboratoire, avec pour objectif d'obtenir des embryons, qui seront ensuite transférés dans l'utérus de la femme quelques jours après la fécondation.
Est-ce qu'il y a une part de risque pour la santé de ces différents traitements ou des effets secondaires des traitements ?
Des risques pour la femme en termes de stimulation ? Alors, ça a été un tout petit peu soulevé tout à l'heure avec la prise de poids. On va dire que globalement, les données qu'on a sont extrêmement rassurantes sur la santé des femmes après des stimulations, y compris si elles ont été répétées. Il y a quelques effets indésirables assez fréquents, mais qui sont peu graves, tels qu'une pesanteur pelvienne, l'impression d'avoir un petit peu grossi, ou etc. Il y a d'autres effets indésirables qui sont beaucoup plus graves, mais qui sont très rares. C'est notamment les anomalies, les maladies thromboemboliques, donc le fait de faire une phlébite ou une hyperstimulation. Et donc ça, c'est contrôlé par le gynécologue, et donc je laisserai le professeur Grimberg compléter s'il le souhaite. Et en tout cas, par rapport à la santé à long terme, il n'y a pas de données inquiétantes concernant un surrisque éventuel de cancer ou bien de baisse de réserve prématurée à cause de stimulations répétées.
Baisse de réserve, ça signifie pas de risque de ménopause plus précoce pour les femmes qui sont traitées. Donc ça c'est important de le soulever. Nous, en fait, quand on fait des traitements de stimulation, on essaie de faire de la stimulation ovarienne contrôlée. Il arrive dans des cas relativement rares de perdre un peu le contrôle de cette stimulation et d'avoir des risques pour les femmes qui peuvent, dans des cas très très exceptionnels, conduire à des hospitalisations pour des syndromes d'hyperstimulation grave, mais ça reste des situations qui doivent rester et qui sont, pour les médecins, quelque chose à tenter d'éviter, mais qui doivent rester relativement exceptionnelles.
Tout de suite, on va prendre la direction du Cameroun.
Priorité santé sur RFI.
Et on retrouve le docteur Ernestine Gouette-Bell. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, directrice de la clinique médicale et du centre de PMA de la clinique Odyssée à Douala. Docteur Ernestine Gouette-Bell, combien de centres de prise en charge de l'infertilité compte aujourd'hui le Cameroun ?
Voilà, je fais une petite entorse pour dire bonjour à mes collègues de Paris, notamment au professeur Greenberg. Alors, nous avons à Douala trois centres de PMA, deux centres privés à Douala, dont celui que vous venez de citer, et un centre public à Yaoundé, qui a été initié par la première dame du Cameroun.
Et donc, quelle prise en charge y est proposée, féminine et masculine ?
Oui, dans notre centre, en fait, nous faisons une prise en charge globale. Nous faisons d'abord une technique de prise en charge de l'infertilité par des traitements médicaux, par la cœliochirurgie et aussi par la fécondation in vitro qui vient d'être très, très bien décrite par le docteur Sermandad. Donc, nous traitons les femmes infertiles, nous traitons les hommes infertiles également. Nous allons nous faisons des congélations, nous faisons des dons de gamètes, des dons de ovocytes, des dons de sperme. Nous faisons également la prise en charge des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes, c'est-à-dire les azoospermies. Donc voilà, la prise en charge est vraiment globale.
Et est-ce que ces traitements sont accessibles ?
Ben, ils ne peuvent pas être accessibles parce qu'ils coûtent cher. Mais ceci dit, il y a d'autres freins, en fait, pour les femmes. Le coût ne fait partie qu'un des freins. Mais il faut savoir que tous ces couples-là qui ont besoin d'avoir des traitements de fertilité par fécondation in vitro vont tenter de le faire. S'ils ne peuvent pas le faire en Afrique, ils iront le faire dans d'autres pays. Ils iront en Afrique du Sud, ils iront en Europe, ils iront aux États-Unis. Donc forcément, dans ces cas-là, les coûts vont être multipliés par 3. Nous pensons donc que quand ça se fait en Afrique, quel que soit le niveau des coûts, les couples ont toujours intérêt à pouvoir le faire sur place, à pouvoir avoir la possibilité en fait de le faire.
Et donc ça veut dire qu'il y a quand même une forte demande malgré ce coût financier ?
Une forme de ?
une forte demande.
Ah oui, il y a une forte demande parce qu'en fait, il a toujours été dit que la femme africaine n'a pas besoin de traitement de pointe parce que les femmes africaines sont très fertiles, ce qui est absolument faux. L'infertilité aujourd'hui est la plus forte en Afrique et particulièrement dans nos pays de la sous-région. Et cela est dû à des raisons aujourd'hui connues, c'est-à-dire les femmes, on a entendu parler tout à l'heure des trompes bouchées, et nous avons un taux élevé des trompes bouchées, et les trompes bouchées, quand elles n'ont pas été traitées par la chirurgie, sont des indications majeures de la fécondation in vitro. Nous avons également beaucoup de spermes qui sont de mauvaise qualité, et tout cela se retrouve chez les femmes qui ont fait de longs parcours. Je pense que mon frère camerounais a décrit tout à l'heure, les couples, avant d'arriver chez les spécialistes, font de très longs trajets qui peuvent durer jusqu'à 10-15 ans. Nous avons eu des études qui dénomment cela le trajet de la femme africaine infertile. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de médecins qualifiés pour la prise en charge de l'infertilité dans sa globalité. Et les couples vont donc aller chez les praticiens, vont aller chez des personnels paramédicaux, ils vont aller chez les médecins généralistes, chez les gynécologues. Quand ils arriveront finalement dans les centres, les femmes auront déjà 40 ans et plus. Donc ça fait un autre frein.
Oui, une grosse perte de temps, vous voulez dire.
Diminue. Voilà, le traitement diminue, enfin tous les traitements diminuent avec l'âge de la femme. Ça fait donc que, voilà, il y a tout ce traitement-là, le coût. Et quand on fait le coût que ces couples ont dépensé pendant ces 10 à 15 ans, ça va faire 3 à 4 fives. Donc finalement, nous pensons que la five, le fait qu'elle se fasse sur place, ne peut pas être coûteuse plus que d'autres traitements.
Et d'après vous, comment cette question de l'infertilité est perçue dans la société camerounaise? Est-ce qu'il y a toujours un tabou autour de cette problématique?
Oui, il y a surtout la stigmatisation. Et la stigmatisation concerne surtout la femme. Ça aussi, nous avons fait trouver les freins, en fait, auxquels sont, nous avons fait une étude qui montre les freins principaux auxquels les couples font face. C'est vraiment la femme. Même quand le couple n'a pas d'enfant, c'est d'abord la femme. Et même quand on fait des examens, qu'on trouve que l'homme est infertile, ça resterait toujours d'abord un problème de femme. Heureusement, de plus en plus maintenant, les hommes consultent. On voit même dans certaines situations, les hommes viennent tout seuls et ils sont même capables de demander des dons de sperme dans ces cas-là. Parce que finalement, certains d'entre eux se sont séparés de leur partenaire et cette partenaire est devenue enceinte. Donc, ça expose l'homme dans sa virilité. Et donc voilà, mais c'est pas encore, c'est pas le plus courant. Ce qui est sûr, c'est que depuis 22 ans que nous faisons la PMA en Afrique aujourd'hui, les témoignages des couples qui ont eu des enfants, le bonheur de ce couple-là, c'est que ces techniques sont de plus en plus connues, de mieux en mieux connues. Et que les nombreux couples aujourd'hui font affaire à ça, font appel à ces techniques-là. Et ce qui est bien aussi, c'est que les couples de la sous-région viennent également aussi au Cameroun, et même des couples occidentaux, parce qu'il y a beaucoup de pays aussi en Occident qui ne font pas des techniques de don des gamètes.
Merci beaucoup, docteur Ernestine Gouedbel, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne et directrice de la clinique médicale et du centre de PMA de la clinique Odyssée à Douala.
RFI à Douala, 97.8 FM.
Professeur Michael Greenberg, on l'a évoqué, la procréation médicalement assistée, c'est un parcours long. Il y a beaucoup d'étapes, quelles que soient les régions du monde où on se trouve. D'après votre expérience, comment réagissent les couples, déjà lors des résultats, et ensuite pendant tout ce cheminement vers la conception d'un enfant?
C'est un parcours qui est extrêmement compliqué à gérer par les couples, bien sûr, au premier chef, parce que quand ils viennent, ils ont déjà un certain passé d'infertilité, on va dire au minimum un an, voire plus. C'est ce que disait ma consoeur tout à l'heure, ça peut aller jusqu'à on les voit arriver 10 ans après de temps en temps. Et pendant ces 10 ans, ils ont vu se passer beaucoup de choses, leurs amis, leurs proches, leurs amis qui avaient du même âge, qui ont eu des enfants, la pression de la famille et de la belle famille par rapport au fait de pas avoir d'enfants. Donc c'est des couples qui sont déjà d'emblée en souffrance. Quand ensuite on va être amené à les prendre en charge, on va les mettre dans un parcours qui est bien sûr pas un parcours idéal, puisque normalement avoir un enfant c'est censé arriver tout à fait naturellement et c'est des gens qui n'y arrivent pas. Et donc déjà il y a la lourdeur et la difficulté à accepter qu'il va falloir médicaliser. Après il y a la lourdeur de tous les traitements aussi qui va impacter. Et même si les équipes médicales et paramédicales essayent de faire le maximum pour rendre ce parcours le plus simple possible, on ne peut pas retirer le fait que la femme va devoir s'injecter des hormones. Ça reste des piqûres quotidiennes, ça reste des visites régulières, ça reste difficile, avec une pression énorme qui est celle de est-ce que ça va marcher ou pas. Et nous-mêmes, nous ne le savons pas. On a des facteurs pronostiques qui nous permettent de dire il y a plus ou moins de chances que ça fonctionne. Mais on est incapable de dire de savoir à l'avance si ça va marcher ou pas. Et ça, cette incertitude, elle est très lourde à porter. Et effectivement, quand ça marche, c'est un bonheur extrême pour les couples, ça l'est pour les équipes aussi. Mais quand ça marche pas, c'est vécu comme un véritable drame. Et quand en plus il y a les coûts et que les gens doivent payer pour ça, c'est difficile à gérer.
Docteur Nathalie Sermondade, est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique ?
Alors effectivement, le professeur Greenberg a très bien souligné la lourdeur de tous les traitements qui sont proposés. Effectivement aussi, en cas d'échec, ce qui est très compliqué, c'est qu'il faut éventuellement remobiliser de l'énergie physique et de l'énergie psychique pour se relancer dans une nouvelle tentative, savoir se relever et recommencer à nouveau. Idéalement, il faudrait proposer à tous les couples qui sont pris en charge en assistance médicale à procréation un suivi psychologique, pas forcément pour améliorer d'ailleurs l'obtention d'un résultat, mais en tout cas pour améliorer le vécu de la prise en charge. C'est pas toujours faisable de façon aisée dans les centres d'AMP, mais ce serait l'idéal.
Merci à vous deux pour cet échange. Professeur Michael Greenberg, je rappelle que vous êtes chef du service médecine de la reproduction et préservation de la fertilité de l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Docteur Nathalie Sermondade, vous êtes médecin biologiste de la reproduction de l'hôpital Tenon à Paris. Ensuite, on vous retrouve Catherine Solano, médecin sexologue, pour répondre aux questions des auditeurs. Bonjour Catherine.
Bonjour Raphaël.
Et aujourd'hui, c'est Daouda qui nous appelle de Bamako, au Mali. Bonjour Daouda.
Bonjour docteur.
Quelle est votre question pour le docteur Solano ?
J'avais demandé au docteur Solano que je constate de plus en plus une baisse de mon libido. Par le fait que, il y a une dizaine d'années, on m'avait soumis sur un produit pour le problème de tension artérielle, du bloquium. À un moment donné, je me suis rendu compte que la prise de ce médicament jouait sur mon libido. J'ai posé la question à un cardiologue. Il m'a dit qu'effectivement, ça fait amener des choses comme ça. Bon, dès lors, j'ai continué avec le produit jusqu'à ce que, à un moment donné, j'ai consulté un autre cardiologue. Il m'a fait changer de produit. Et qui m'a même dit que je n'avais pas de problème de tension. Mais à ma grande surprise, il m'a mis sous un autre produit, Amlostar. Et j'ai constaté que le libido, là, ça baissait de plus en plus. Je n'en ai parlé. Il m'a prescrit un produit cupide. J'ai pris ce produit deux fois, trois fois. Hein, ça n'a rien changé. Donc même si je me déshabille avec moi, même en voyant ma conjointe, ça ne me dit rien. Je n'ai pas de direction. Mais quand on m'a parlé d'un médicament traditionnel à base de plantes, d'un thérapeute ivoirien, bon, quand je prends ça, il y a un léger mieux. Mais le hic est que ce médicament me donne des céphalées. Donc, de telle sorte que j'étais obligé, à un moment donné aussi, d'arrêter ça. Donc, je voudrais demander au docteur Solano la conduite à tenir. J'ai même diminué la dose d'Amostar que je prends. On m'avait prescrit de 10, mais je suis venu à 5. Il y a un an maintenant que je ne prends que du 5.
D'accord.
Je n'ai pas avisé mon cardiologue, mais j'ai changé.
Alors, il y a plusieurs choses que je peux vous dire, Daouda. La première chose, c'est que parmi les médicaments contre l'hypertension, il y en a qui ne sont pas mauvais pour l'érection, en particulier ce qu'on appelle les sartans. Donc peut-être que vous pourriez redemander à votre cardiologue, lui dire « moi, avec ces médicaments, j'ai des problèmes d'érection, est-ce que vous pouvez me le rechanger ?» Si vous nous donnez, vous envoyez votre mail, je vous enverrai un article là-dessus à montrer à votre cardiologue qui explique tout là-dessus. Comme ça, oui. Il saura quel médicament vous donner, oui. D'accord ? C'est déjà une chose. Deuxième chose, est-ce que vous fumez ?
Non, j'ai arrêté de fumer depuis 97.
Bon, bravo, parce que ça, pour l'érection, c'est la catastrophe. Ensuite, est-ce que vous faites de l'exercice physique ?
La marche.
Voilà, parce que c'est très important de faire de l'exercice pour garder une bonne érection après 50 ans. Les hommes qui font pas beaucoup d'exercice ou pas du tout, ils ont deux fois plus souvent des problèmes d'érection. Donc, je vous incite à vraiment à faire même de la marche, mais rapide, voyez, ou du footing tranquille, mais ou de, je sais pas, la natation ou du vélo, ce que vous pouvez. Et puis, est-ce que vous avez des kilos en trop ou pas?
Non.
J'ai
69,5 kg.
Oh ouais, d'accord. Non, c'est important parce que moi, j'ai un patient qui était exactement comme vous. Il avait de l'hypertension, un médicament, des problèmes d'érection. Il m'a dit, moi, je ne veux pas avoir de problème d'érection, j'arrête mon médicament. Je lui ai dit, c'est pas possible, vous allez abîmer vos artères. Il m'a dit, oui, mais je vais perdre des kilos. Il a perdu 10 kilos. Bon, vous, c'est pas votre cas. Et il a plus d'hypertension. Donc, je dis ça pour nos auditeurs que quelquefois, c'est mieux de faire de l'exercice et de perdre des kilos que de prendre un médicament. Mais bon, vous, c'est pas votre cas. Ensuite, je veux vous dire une autre chose, c'est que c'est quoi votre médicament traditionnel? Ça se présente comment?
C'est sous forme de sirop.
C'est un sirop. Alors, je vais vous dire, moi, ce médicament vous donne mal à la tête. Il y a 90% de chances que ce médicament contienne du Viagra ou un médicament de la famille du Viagra. Parce que si vous voulez, on sait que beaucoup de médicaments qu'on vend et dont on dit ils sont à base de plantes contiennent en fait du sildenafil, du tadalafil, du vardenafil ou de la vanafil, c'est-à-dire les médicaments pour l'érection. Parce que l'effet indésirable de ces médicaments, c'est les maux de tête. Donc il y a des grandes chances que ça soit ça, même s'il vous dit que c'est un médicament traditionnel. Hein, et du coup, moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt d'essayer un vrai médicament, parce qu'il y en a 4 sur le marché, et au moins, vous saurez quelle dose vous prenez. Parce que je prends un exemple, le Viagra, qui est le sildenafil, il existe en 100 mg. Si quand vous le prenez en sirop, c'est l'équivalent de ça, ça fait très mal à la tête. Si vous prenez du 50, ça marche quand même, mais c'est beaucoup moins fort. On peut même prendre du 25. Donc, moi, je vous conseillerais plutôt d'acheter ça en pharmacie, surtout que maintenant, c'est pas très cher, parce qu'il y a des génériques.
Oui.
Voilà mes conseils.
Ok. D'accord. Soucis.
Merci pour vos appels et vos questions. Merci à vous, Catherine Solano. Merci. Je rappelle que vous êtes médecin sexologue. Priorité santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe, à Cétous Amaké, Ophélie Lassène et Didier Bleu à la réalisation. Demain, vous retrouverez Caroline Paré pour une émission sur l'envenimation. On vous donne rendez-vous à 9h10, temps universel. Et si vous voulez témoigner ou poser une question, le numéro de téléphone est le 33 1 84 22 75 75. À demain et bonne journée sur RFI.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance qui assure la pleine forme de nos champions et championnes d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.